sait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique. Âme en quête d'aventure ou amateurs de conflits qui n'usent pas trop l'horloge, bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui à un événement tellement bref que si tu clignes trop fort des yeux, eh bien, tu viens d'assister à l'équivalent temporel de la totalité des combats. J'ai nommé la guerre anglo-zanzibarite de 1896. Le plus court conflit de l'histoire humaine, un affrontement d'une intensité telle que même les chronomètreurs olympiques ont dû vérifier si leur matériel fonctionnait correctement. Prépare-toi, car ce récit va te transporter au cœur d'une tension diplomatique extrême, d'un bras de fer politique redoutable et d'un échange de coups de canon ayant duré moins longtemps que la cuisson d'un œuf mollet. La guerre anglo-zanzibarite, qui commence comme une tragédie shakespearienne et se termine comme un sketch dont on aurait coupé le budget. Voici son histoire. Accroche ta ceinture, tes voiles, ton turban ou ton casque colonial, nous partons pour Zanzibar, au tournant du 19e siècle, quand l'océan Indien sentait les épices, les intrigues et l'humidité tropicale. Imagine maintenant l'île de Zanzibar en 1896. Palais somptueux, minarets, senteurs de clous de girofle et de cannelle qui virevoltent avec les cris des marchands, une carte postale paradisiaque, si l'on oublie bien sûr la présence pesante de l'Empire britannique, cette puissance qui, à l'époque, vivait une étrange passion, plantait des drapeaux partout où le soleil se levait, se couchait ou hésitait entre les deux. Zanzibar, riche, stratégique, fière, était indépendante sur le papier. Mais la Grande-Bretagne exerçait une influence que l'on pourrait, selon le degré de politesse, qualifier de protectrice, envahissante ou carrément omniprésente. Bref, les Anglais veillaient à ce que le sultan en place corresponde à leurs intérêts, ou du moins qu'il ne s'y oppose pas au petit déjeuner. Et justement, en ce 25 août 1896, le sultan Aman bin Tuweni, un homme charmant, sympathique et surtout très apprécié des Britanniques, s'éteint soudainement, subitement, mystérieusement. Je ne suggère rien, mais disons que l'histoire demeure muette, les archives diplomatiques encore plus, et que celui qui a dit « on ne saura jamais vraiment » n'a pas cherché très longtemps. À peine le dernier soupir du sultan échappé, un cousin, Khalid bin Bargash, décide qu'il est temps de saisir sa chance. Et quand je dis « décide », je veux dire courir au palais, s'y enfermer, hisser son drapeau, occuper le trône, convoquer les musiciens et se proclamer sultan. Le tout avec la rapidité d'un influenceur attrapant un code promo en direct. Une sacrée efficacité administrative tout de même. Mais problème, un tout petit détail, Londres avait d'autres projets. Les Britanniques soutenaient un prétendant plus docile, Hamoud bin Mohamed. Hamoud, pour sa part, était très discret, très calme, très conciliant. Le genre d'homme capable d'expliquer diplomatiquement pendant 10 minutes qu'il adore la couleur des tentures que vous détestez. Bref, l'allié parfait pour une puissance coloniale qui voulait contrôler sans en avoir l'air. Alors, imagine la réaction britannique lorsqu'ils apprennent que Khalid, sans leur demander leur avis, sacrilège, s'est emparé du trône. Cela ne passe pas, mais vraiment pas du tout. Les diplomates se crispent, les moustaches britanniques frémissent d'indignation, les chapeaux coloniaux se redressent sur les têtes, on rédige des dépêches, on souffle fortement du nez, on menace poliment, on fronce sérieusement les sourcils. Et surtout, on donne un ultimatum. Le général Lloyd Matthews, qui commande du côté britannique, se rend au palais du nouveau sultan et lui annonce, avec le maintien de celui qui a trop d'empire pour trop de problèmes, Vous avez jusqu'à demain 9h du matin pour quitter les lieux.
Il faut que je vous parle. Je sais très bien que sous prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un truffon. Soit j'en prends mon parti, n'empêche, je crois qu'on a à parler. Visiblement, vous n'allez pas bien. Laissez-moi vous aider.
Casse-toi.
Oh, ça, mais vous refusez le dialogue.
Exactement, je veux pas qu'on parle. Je veux que tu quittes la ville. Et t'as intérêt à te casser avant 9h.
Khalid, jeune, ambitieux, têtu, répond en gros non. Mais en version plus longue, plus solennelle, et avec un peu plus de meubles renversés. On dit que cette nuit-là, il a fait fortifier le palais, mobiliser près de 2800 soldats, équiper quelques pièces d'artillerie et même armer le yacht royal. Un navire élégant, certes, mais vieillissant, mais prêt à combattre quand même, ou du moins à offrir une magnifique cible flottante. De l'autre côté, les Britanniques rassemblent dans le port une flotte de guerre au grand complet. Trois croiseurs, deux canonnières, des marins en uniforme impeccable, des canons suffisamment gros pour faire trembler les marais et des officiers pratiquant l'art mystique du flegme agressif. La tension monte, l'air devient lourd, les épices semblent elles-mêmes retenir leur parfum. Zanzibar retient son souffle. Ou plutôt, une petite partie retient son souffle. Le reste continue de négocier sur les marchés parce que, disons-le clairement, la population locale a vu des sultans passer, des sultans tomber, et ne savait même pas encore que l'histoire s'apprêtait à vivre le plus court sprint militaire de tous les temps. 27 août, aube pâle, les navires britanniques sont en position. Le soleil grimpe lentement, trop lentement au goût de certains. Le drapeau zanzibari flotte au vent. Le palais, massif, blanc, s'élève comme un défi. À l'intérieur, Khalid tient bon, ou prétend tenir bon. Nul ne sait jamais vraiment ce que pense un homme qui s'apprête à faire face à quatre navires de guerre modernes sans réelle artillerie. 8h55, un messager britannique arrive au palais. « Il vous reste 5 minutes pour quitter votre trône. » Khalid ne répond pas. Ou peut-être qu'il fait semblant de chercher ses lunettes pour gagner du temps. Personne ne sait vraiment.
« Il est déjà 9h là ? » !»«
Sur mon front, il n'y a pas marqué radio réveil. »
9h. L'ultimatum expire. Silence. Le soleil tape. Les marins britanniques attendent l'ordre. On ajuste les uniformes, on se racle la gorge. Peut-être que quelqu'un vérifie sa montre gousset. On doit faire les choses proprement. 9h02, premier tir. Et c'est là que la guerre entière, commence. Et c'est là aussi qu'elle se termine. Presque. Les secondes qui suivent sont un enchaînement de feux et de fracas. Les canons britanniques font parler leur métal avec l'enthousiasme d'acteurs trop longtemps restés hors scène. Le palais est secoué, ses murs se fissurent, des éclats de pierre volent comme des confettis dont personne n'a demandé la fête. Les batteries zanzibarites tentent de répondre, mais leurs tirs sont maladroits, imprécis et parfois même, selon certains récits, dirigés vers rien en particulier. Le yacht, lui, tire quelques coups avant de devenir un amas brûlant et fumant en quelques minutes. À peine 20 minutes après le premier tir, le palais est une carcasse. Les troupes de Khalid dépassées fuient comme elles peuvent. Certains sautent dans le port, d'autres se cachent dans les ruelles. Tous réalisent que cette guerre n'en était pas une, ou du moins qu'elle n'avait aucune chance d'en devenir une. Vers 9h40 ou 9h45, selon les montres utilisées et la sueur dans les yeux, Khalid quitte le palais en douce. À pas feutrés, presque sur la pointe des pieds. Voir un sultan prendre la fuite par une porte arrière, ce n'est pas anodin, c'est même presque une scène burlesque. Les robes royales qui s'accrochent aux pierres, les gardes qui se bousculent derrière lui, les sabres qui claquent au sol. On raconte même, mais cela relève sans doute du folklore local, qu'il aurait renversé un pot de confiture en fuyant. La postérité ne confirmera jamais. Une fois Khalid hors jeu, les tirs cessent. Les Britanniques relèvent la tête, inspectent les dégâts, prennent des notes pour les assurances peut-être, et déclarent que la guerre, la grande, puissante, terrible guerre, est officiellement terminée. Durée totale estimée 38 à 45 minutes, le temps d'un épisode de série, le temps de faire cuire des pâtes, le temps pour un Britannique de s'excuser trois fois sans raison, le temps pour un zanzibarite d'allumer son narguilé. Bilan, des dommages matériels importants, quelques dizaines de morts côté zanzibari, un seul blessé chez les Britanniques, probablement dû à une chute de tasse de thé un peu trop chaud. Mais, ne soyons pas médisants. Les Anglais placent ensuite leur sultan favori, Hamoud, sur le trône. Ils réorganisent l'administration, ils reprennent les affaires, on balaye les décombres, on répare, on s'habitue, et, comme souvent dans l'histoire, la vie continue. Khalid, quant à lui, se réfugie à la légation allemande. On le retrouvera plus tard fuyant encore, décidément c'est une spécialité, avant de finir ses jours dans une relative obscurité. Et voilà. Une guerre si courte qu'elle remet en question le concept même de guerre. Une guerre sans champ de bataille, ou plutôt un champ de bataille sans le temps d'y réfléchir. Une guerre qui aurait pu être un drame effroyable et qui est devenue, par sa brièveté, un monument d'absurdité géopolitique. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira « ça va être vite fait », pense simplement à cette matinée de 1896 où une guerre entière s'est déroulée entre un thé matinal et une réunion administrative. Et c'est tant mieux, car, comme disait Prévert, quelle connerie la guerre. Parlons à présent, pléonasme, d'une guerre tout aussi ridicule. Nous sommes en 1932 en Australie. Le soleil tape dur sur les plaines brûlantes et les champs de blé sont craquelés, privés de toute humidité. Les exploitants de l'ouest australien, autour de Campion, Geraldton et Espérance, traversent ce que beaucoup considèrent comme la pire période de leur existence. Depuis 1929, la Grande Dépression frappe le monde entier et l'Australie en subit de plein fouet les conséquences. Les prix du blé ont chuté à des niveaux catastrophiques, le coton et le bétail valent à peine quelques sous et les banques ferment ou restreignent les prêts, laissant les familles agricoles dans une situation économique désastreuse. Les cultivateurs survivent à peine, partageant logements, repas et parfois même un vieux tracteur qui fume plus qu'il ne roule en espérant simplement que le lendemain sera moins désastreux. Beaucoup sont lourdement endettés après avoir emprunté pour acheter semences, matériel ou bétail, et leurs terres, déjà fragilisées par l'extrême aridité qui réduit encore des récoltes déjà maigres, produisent un blé insuffisant pour nourrir la famille, rembourser les dettes et espérer un petit surplus à vendre. Chaque journée ressemble à un combat pour garder la tête hors de l'eau, ce qui pourrait être chose aisée en période de climat sec, mais tout de même. La pauvreté est généralisée, le chômage explose et la frustration est palpable, travailler dur ne suffit plus et la nature semble elle-même se liguer contre l'homme. Dans ce contexte, déjà difficile, un adversaire inattendu fit son apparition. Ce n'était ni le climat, ni les marchés, ni même les nuisibles habituels, mais un groupe d'êtres insolites, grands, rapide et étonnamment résistant, des émeux.
It's an attack. Listen, I know a way out of here. I can save us.
They watch our every move. They taunt us.
They're stronger than us.
They're faster than us.
You have no idea what they're capable of.
This isn't war, Liam. This is genocide. You think you won't scare me? I have a home worth fighting for.
Ces émeux, sorte d'autruche australienne, mesurant entre 1,50 m et 2 m, avançaient sur deux pattes, les plumes agitées par le vent, avec une démarche à la fois nonchalante et parfaitement efficace. Elles se déplaçaient en vastes groupes, capables de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture et surtout totalement indifférentes à la notion de propriété agricole. Les exploitants, déjà éprouvés par les difficultés économiques, voyaient ces silhouettes massives avec un mélange de stupéfaction et d'impuissance. Incapables de voler, les oiseaux compensaient largement par leur vitesse, leur endurance et une remarquable capacité à éviter les obstacles. Sans bruit, sans agitation excessive et sans la moindre hésitation, ces grandes silhouettes à plumes transformèrent les cultures en zones de passage intensif, réduisant à néant des semaines de travail. Face à cette situation devenue intenable, le gouverneur décide d'intervenir. Après débat et demande insistante, une solution pour le moins radicale est adoptée, l'intervention militaire. L'armée australienne est déployée dans l'ouest du pays avec des soldats, des camions, des munitions et surtout des mitrailleuses Lewis, armes redoutées sur les champs de bataille humains, mais rarement testées contre des cibles rapides et dispersées. Le commandement de l'opération est confié au colonel Meredith, vétéran de la Première Guerre mondiale, officier expérimenté, méthodique et rigoureux. Il aborde cette mission comme toute autre opération militaire. Reconnaissance du terrain, choix des positions, planification des tirs et coordination des unités sont appliqués avec sérieux. L'objectif est clair, protéger les cultures et réduire la population d'oiseaux responsables des dégâts. Dès les premières installations, les limites de l'opération apparaissent. Les supports des mitrailleuses peinent à rester stables sur un sol meuble, les véhicules s'enfoncent partiellement dans la poussière et les conditions rendent les tirs difficiles à ajuster. Les cibles, rapides et imprévisibles, changent constamment de direction, rendant toute attaque frontale efficace. L'action militaire s'étire sur plusieurs semaines, bien plus longtemps que prévu. Ce qui devait être une opération rapide se transforme en une succession d'essais maladroits et d'ajustements constants. Les soldats tentent des embuscades, choisissent des positions en hauteur, déplacent leurs mitrailleuses, puis recommencent ailleurs avec l'espoir persistant que la prochaine tentative sera la bonne. Chaque manœuvre est soigneusement préparée, chaque position longuement étudiée et chaque tir effectué avec sérieux, pour un résultat généralement décevant. Les oiseaux, eux, semblent toujours avoir un temps d'avance. Dès que les soldats se regroupent, les troupeaux se dispersent. Lorsqu'un tir est déclenché, les cibles changent de direction avec une rapidité déroutante. Lorsqu'un barrage est tenté, les groupes se fragmentent en plusieurs unités plus petites, continuant leur progression à travers les cultures comme si de rien n'était. Et les mitrailleuses Lewis, pourtant conçues pour un champ de bataille humain, peinent à suivre des cibles aussi mobiles. Les armes chauffent, les mécanismes s'encrassent et la précision diminue à mesure que la poussière s'infiltre partout. Robustes et dotées de pattes puissantes qui facilitent leur mobilité, les émeutes sans plus d'émotivité absorbent le chaos sans panique. Leur capacité à se déplacer en groupe coordonné rend toute tentative d'encerclement inefficace. Là où l'armée cherche une formation claire et un schéma logique, elle ne rencontre qu'un mouvement permanent, désordonné en apparence, mais redoutablement efficace. Au fil des jours, les munitions s'accumulent plus vite que les résultats. Des centaines de cartouches sont tirées pour un nombre très limité d'oiseaux abattus. Chaque succès est aussitôt compensé par l'apparition d'autres groupes, ailleurs, poursuivant leur avancée et laissant derrière eux des cultures ravagées. Le constat devient inévitable, malgré la discipline, l'entraînement, l'équipement et l'expérience du commandement, la situation échappe totalement au contrôle. Les volatiles remportent la victoire. La guerre des émeutes reste aujourd'hui un épisode unique de l'histoire australienne. À la fois absurde et révélateur, il illustre les difficultés économiques des années 1930, les limites de la puissance militaire face à la nature, et rappelle qu'en certaines circonstances, la stratégie la plus élaborée peut échouer face à quelques tonnes de plumes parfaitement inorganisées. Aujourd'hui, près d'un siècle après cet épisode devenu légendaire, les émeutes se portent globalement très bien en Australie, et l'on peut même dire qu'ils ont définitivement gagné la paix, sans avoir jamais eu à la signer. L'émeu est désormais une espèce protégée d'ailleurs au niveau national. On estime sa population totale entre 600 000 et 700 000 individus, répartis sur la majeure partie du continent australien. Ils occupent surtout les zones semi-arides, les plaines ouvertes et les régions rurales, exactement les milieux auxquels ils sont adaptés depuis des dizaines de milliers d'années. Ils continuent à migrer sur de longues distances, selon les saisons et la disponibilité de l'eau, avec cette efficacité discrète qui leur avait déjà permis, en 1932, d'échapper aux mitrailleuses. Les conflits avec l'agriculture n'ont pas totalement disparu, mais ils sont aujourd'hui gérés de manière civile, administrative et beaucoup moins martiale. L'armée ne s'en mêle plus. À la place, on utilise des clôtures adaptées, souvent inspirées de celles conçues contre les dingos ou les lapins. Des permis de destruction très encadrés, lorsque des dégâts agricoles importants sont constatés. Et surtout, une approche de gestion de la faune où l'émeu est vu comme un animal indigène avec lequel il faut composer et non comme un ennemi à vaincre. Fait intéressant, toutes les populations d'émeux ne sont pas dans la même situation. Si l'espèce dans son ensemble est stable, certaines sous-populations locales sont en danger critique, notamment l'émeu côtier de Nouvelle-Galles du Sud, dont il ne resterait que quelques dizaines d'individus. Dans ces régions, les habitants installent des panneaux routiers, surveillent les nids et protègent activement ces grands oiseaux avec un sérieux qui contraste fortement avec les désinvoltures de 1932. Dans l'imaginaire collectif australien, les émeutes sont devenus un symbole national un peu moqueur. Ils figurent d'ailleurs sur les armoiries du pays, aux côtés du kangourou, deux animaux choisis précisément parce qu'ils ne reculent pas facilement. La guerre des émeutes est aujourd'hui racontée comme une anecdote absurde mais révélatrice. Celle d'un continent où la nature, même armée de plumes et de longues pattes, rappelle parfois calmement à l'homme qu'elle connaît le terrain depuis bien plus longtemps que lui. In the outback sun in 32, the farmers cried, what can we do? The emus came, a mighty horde,
The feathered army broke the corn. Oh, stand up tall. The soldiers came, their rifles high. Defend the wheat was our war cry. But swift and smart, those birds did weave and left our men in disbelief. Oh, stand up tall. With guns in hand, we made our stand. But the birds ran free across the land. They dodged the bullets, ran so fast. A war was lost in the outback vast. The general sighed, we can't go on. The emus win the fight is done. So raise a glass to those we fought, the feathered foes that we could not. Australia laughs, but we all know the Emu War was quite the show. Oh, stand up tall.
Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.